Je suis ravie d'être là, de pouvoir faire cette discussion. Alors, vous avez, vous, envie de discuter d'un tas de choses, j'en doute pas. Et il faudra que vous preniez la parole après mon introduction. Il y a un tas de choses, en effet, à discuter, que ce soit ce qui se passe au Moyen-Orient, ce qui s'est passé, y compris là, dans la société, hein, le meurtre de la petite Liana, que ce soit tout ce qui vous préoccupe, voilà, la crise climatique, enfin bon, tous les problèmes qui nous tombent dessus. Hein, je vais forcément en oublier, je vais forcément pas tout développer, donc n'hésitez pas à aborder le sujet, hein, après, toutes les questions qui vous préoccupent, bien sûr l'élection présidentielle, j'avais oublié, également. Voilà, ce que je vous propose, c'est de faire une petite introduction et à partir de ce que m'a inspiré l'actualité récente. Donc, vous voyez, je ne vais pas forcément être dans vos préoccupations, mais je voulais partir de Elon Musk. Je ne sais pas si vous avez suivi cette histoire, mais vendredi, donc Elon Musk, qui est à la tête, vous le savez, je pense, de Tesla, de SpaceX, qui a, je crois, absorbé XAI, maintenant c'est dans la même branche. Donc ce grand mania capitaliste, connu par ailleurs pour être un xénophobe, pour être un misogyne, pour être, enfin bon, vraiment un sale type. Eh bien, ce Elon Musk est devenu le premier billionnaire. Alors c'est un mot nouveau auquel il va falloir s'habituer. C'est un milliardaire qui possède 1000 milliards de dollars. Sa fortune vient de dépasser 1000 milliards de dollars. Alors vous voyez, quand on connaît tous des femmes et des hommes qui bossent dur tous les jours, hein, et qui sont obligés de calculer le moindre euro qu'ils dépensent pour se nourrir ou pour se déplacer, et ben ça c'est déjà quelque chose de proprement révoltant. Et qui est vraiment à l'image de ce qui se passe aujourd'hui, des inégalités qui explosent. Mais je voulais souligner aussi autre chose, c'est que il a dépassé la barre des 1000 milliards à la faveur d'une vague spéculative. Parce qu'en ce moment, il y a une vague spéculative qui est en train de gonfler sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est le nouvel Eldorado de la finance. C'est des centaines de milliards qui vont dans l'intelligence artificielle. Enfin, si on peut en rire, qui explique que vous avez une entreprise, vous rajoutez IA derrière son nom, et vous êtes sûr que les actions, elles vont augmenter en bourse. Vous voyez, enfin, ça devient de la folie. En l'occurrence, à la faveur donc de cette vague spéculative, il a donc gonflé la valeur de ses actions et il est devenu billionnaire. Alors, cette vague spéculative, elle est folle parce que le jour elle va nous péter à la figure, et ben c'est toute l'économie qu'elle va mettre par terre et elle va exploser comme les fusées de Musk, hein. Voilà, et elles vont faire exploser aussi tout le système financier, le système monétaire, enfin c'est ça aussi qui nous pend au nez. Et les États sont bien moins en situation colmater les brèches qui seront faites, comme ça a été le cas en 2008, lors de la crise financière des subprimes, parce qu'en 2008, les États ont ouvert les vannes, ils ont mis des milliards et des milliards pour sauver les banques, mais aujourd'hui, les États, ils peuvent plus le faire, parce qu'ils sont eux-mêmes surendettés. Donc, on est quand même, hein, vous voyez, ils jouent à l'économie comme ils joueraient au casino, et tout ça, ça peut nous péter à la figure d'un moment ou à un autre. Et puis cette vague spéculative, j'ai aussi envie de dire qu'elle est révoltante. Elle est révoltante parce que tout ce pognon là, hein, c'est lui, il a levé 75 milliards en une journée. C'est de l'argent qui vient de notre boulot. C'est de l'argent qui vient de notre exploitation ici et partout dans le monde. Parce qu'en réalité, quand on travaille, et même quand on travaille pour une petite entreprise ici à Gardanne, hein, et qu'on a l'impression qu'on n'a rien à voir avec le grand capital, eh ben en réalité on bosse pour le grand capital, parce qu'en réalité tout cet argent qu'on produit, il est aspiré et il est concentré par les plus gros, à commencer bien sûr via les banques. Donc en réalité, parmi ces milliards qui sont allés gonfler la fortune de Musk, eh ben, il y a le fruit de notre labeur, il y a notre sueur là-dedans, en fait. Et puis, l'autre aspect, c'est que quand vous écoutez la propagande pro-patronale, là, 24-24 sur les médias, qu'est-ce qu'on nous explique? On nous explique que si on veut sauver les retraites, que si on veut avoir une vie à peu près digne, si on veut avoir une bonne éducation, etc., il faut qu'on travaille plus. Il faut que l'économie tourne davantage, qu'on produise plus et qu'on fasse des profits. Et on en fait des profits. Et après, ils servent à quoi, ces profits? Eh bien, précisément, ils servent à ça, en fait. Ils vont dans ces vagues spéculatives. Ces milliards, bien sûr qu'on en aurait besoin pour les EHPAD, on en aurait besoin pour l'éducation, on en aurait besoin pour un tas de choses. On en aurait besoin dans les pays pauvres, mais ne serait-ce que pour construire des routes, des dispensaires. Hein, ben ça, ce n'est pas partie de leur univers. Voyez, alors oui, ça, c'est révoltant. Et c'est à l'image de ce système. Et l'autre point sur lequel je voulais aussi insister, c'est que beaucoup vont nous dire « Ouais, mais Nathalie, cette fortune, en fait, elle est fictive, parce que c'est les actions, elles peuvent se dégonfler, et puis finalement, il va perdre des milliards. » Ouais, d'accord. Hein, mais sur 1 000 milliards, il peut en perdre quelques centaines. Hein, la réalité, c'est qu'il a un pouvoir qui n'est pas fictif du tout. Il a un pouvoir. En concentrant ses masses de capitaux, en fait, un capitaliste comme Musk a bien davantage de pouvoir que n'importe quel chef d'État. Que n'importe quel chef d'État. Là, nous, on est parti sur l'élection présidentielle. Ah, voilà. À notre sort, il va dépendre du prochain président de la République. Hein? Mais, en réalité, le pouvoir d'un président de la République, comme celui de la France, alors bon, parce que la France, bon, en plus, c'est une puissance qui est maintenant une puissance de seconde zone en réalité. Mais c'est un pouvoir qui vaut rien par rapport au pouvoir de cette classe capitaliste. Quand ils nous disent, votez pour nous, on va réindustrialiser, on va planifier, on va faire ci, relancer l'économie, etc. C'est pas eux qui ont les leviers. Ceux qui ont les leviers, c'est des Musk, c'est des Nils, c'est des Saadé, que vous connaissez bien à Marseille. C'est eux qui ont les leviers sur l'économie. Et c'est eux qui font les plans pour organiser l'économie et la société de demain. Ils ont un pouvoir extravagant. Ça n'a rien de démocratique, la société dans laquelle on vit. En fait, l'avenir de l'humanité, c'est eux qui l'engagent. Et ils l'engagent en fonction de quoi? Évidemment pas en fonction de l'intérêt général. Hein, ils engagent leurs capitaux là où ils font du fric. Et accessoirement, s'ils peuvent faire du fric en réalisant leur délire, eh ben ils y vont. Parce qu'il y a quand même un peu de délire quand même quand vous écoutez Elon Musk. Enfin, je ne sais pas si vous l'écoutez beaucoup, mais vous avez vu que quand même un de ses projets, c'est de rendre la vie multiplanétaire. La vie multiplanétaire, moi j'ai envie de lui dire, c'est la planète qu'on habite, on en a peut-être pour quelques siècles encore, hein? Ce serait peut-être bien qu'on la maintienne vivable, hein, et que les peuples puissent vivre un peu dignement. Hein, donc, voilà, lui, il a tous ces projets-là, hein, et il fait du fric avec, et beaucoup de fric. Donc, voilà, je voulais commencer là-dessus. Dire que demain, je ne sais pas si vous avez vu, mais en France, à Évian, se réunit le G7. Donc, Trump va venir. Il va venir. En plus, il a eu droit à une invitation à Versailles. Il va aller à Versailles parce que Macron, comme en fait, il veut faire genre, moi, je peux lui parler d'égal à égal. Hein, Macron, il a obtenu sa petite private réunion à Versailles. On va beaucoup entendre parler En tout cas, moi, ce matin, en prenant mon petit-déj, j'en ai entendu parler. Et j'ai même entendu quelqu'un qui expliquait que le G7, si, il avait encore un rôle important, hein, que le G7, il organisait l'économie, il aidait les chefs d'État à se coordonner, il les aidait à planifier un petit peu les choses. Il y en a encore qui croient ça. Ah ben, bravo, quoi. Hein, il y en a encore qui croient ça. Voilà, le G7, là, c'est une réunion des agents du chaos. Les agents du chaos. Hein, très clairement, c'est ceux qui, en effet, défendre cette société capitaliste et qui l'amène vers ces inégalités extravagantes, qui l'amène dans cette crise climatique, puisque cette crise climatique, quand même, on la ressent maintenant de plus en plus directement. Ils nous promettent une canicule à partir de mardi, une nouvelle canicule. Donc, et puis qui nous jette aussi dans toutes ces guerres. Et ça, c'est les lois justement de ce système capitaliste. Les présidents de la République, les députés vont nous dire qu'ils vont voter des belles lois pour encadrer tout ça, pour recoller les morceaux, pour faire que les choses elles aillent mieux. La réalité, c'est que les lois de ce système capitaliste ne peuvent provoquer que plus d'inégalités, que plus de crises et que plus de guerres. Voilà, et on y est en plein dedans. Voilà, on y est en plein dedans. Et pour finir, moi je suis candidate à l'élection présidentielle pour précisément dire tout ça aux travailleurs et pour dire aux travailleurs que ils peuvent et ils doivent se battre pied à pied contre le grand patronat qui cherche à nous exploiter davantage, qui cherche à faire reculer nos conditions de vie, et ils doivent se battre dans la perspective de le renverser. Pas seulement dans la perspective de dégommer Macron et de le remplacer par un qui serait un peu moins pire. La perspective, justement, de renverser cette classe capitaliste. La perspective de mettre fin à la propriété privée des moyens de production. La perspective de mettre fin à l'exploitation. À l'exploitation de l'homme par l'homme. Voilà, la perspective d'organiser l'économie sur d'autres bases, sur des bases collectives, sur des bases communistes, et ça à l'échelle internationale. Parce que c'est un autre aspect aussi de ma candidature. Je poserai effectivement cette question, j'essaierai dans toute la campagne de faire en sorte que les travailleurs, ils entendent que, c'est tout le cadre qu'il faut qu'on fasse péter. C'est tout le cadre. C'est le cadre du capitalisme qu'il faut qu'on fasse péter. Et ça à l'échelle internationale, en fait. À l'échelle internationale. Avec cette conscience que tous ceux qui aujourd'hui sont sous les bombes, tous ceux qui aujourd'hui crèvent de faim, sont parqués dans des camps infâmes, en réalité, ils font partie de la même classe que nous. Et nous, ici, exploités, nous, ici, malmenés, on constitue une seule et même classe sociale qui a le même intérêt, c'est-à-dire de changer cette société de fond en comble et d'en reconstruire une autre sur des bases communistes. Voilà le sens de notre combat au quotidien et de ma candidature. Donc, c'était l'introduction et je vous laisse maintenant la parole.
Je profite que personne n'ait intervenu. Nathalie Arthaud, moi je vous remercie pour votre engagement. Parce que c'est quand même assez extraordinaire, vous êtes notre leader, vous êtes à fond. Bien sûr que malheureusement, ce que vous dénoncez, ça ne passe pas dans les médias. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a des difficultés à se développer, parce que tout passe par là, ou beaucoup de choses passent par là. Donc, je tiens encore à vous remercier. Et après, juste si vous pouvez me dire un mot sur ce traître de Mélenchon. Savoir ce que vous en pensez. Voilà, merci.
Ce que je voulais dire, c'est que de lister toutes les mauvaises choses que nous font les capitalistes, eux, ils font leur boulot. Ils font leur boulot des capitalistes. Et donc, c'est quand même à nous à mettre un frein à leur. Alors, pouvoir, je me pose la question, pourquoi est-ce que il y a cette fringale là de pouvoir et qu'en face il n'y a rien. Voilà, je suis pas de la première jeunesse, mais bon, donc j'attends toujours et ça tarde à venir quand même. J'aimerais savoir pourquoi.
Est-ce que à l'approche des élections, vous pensez. Par exemple, si vous êtes en débat face à un membre de LFI, le mettre en confrontation face à ses contradictions dans son programme, parce que LFI, c'est vrai qu'il nous, nous promettent des avancées sociales. Ils ont un discours qui peut paraître anticapitaliste, mais en fait, ils sont réformistes dans le fond. Et je pense que ça serait utile sur des médias connus, puisque vous allez sûrement à des moments être invité par la télé, mettre en avant ça, à quel point LFI, en vrai, ils ne peuvent pas vraiment résoudre le problème des travailleurs qui sont exploités, parce qu'ils ne sont pas anticapitalistes, en fait. Ils ne sont pas comme lui.
Bonjour.
Ah, Johnny.
Dans ton intervention, Nathalie, tu parles de l'international. Et il y a une situation qui est, hormis la Palestine, qui est gravissime, il y a une autre situation qu'on ne parle pas beaucoup dans les médias, mais qui peut être symptomatique de ce qui pourrait arriver en France si on arrive un jour, au grand jour, d'avoir des communistes révolutionnaires ou Nathalie Arthaud, président de la République. C'est la division de notre camp. Et au Népal, il y avait un parti, les guerriers communistes, qui étaient en place, avec un gouvernement communiste, avec une opposition communiste, maoïste, stalinien, il y avait toutes les tendances communistes, donc on aurait pu penser que ça allait réussir. Finalement, la situation a dérapé, c'était un facho qui est arrivé au pouvoir et qui est en train de faire la chasse aux communistes, ils font la chasse aux syndicalistes, au point qu'ils interdisent aujourd'hui les syndicats au Népal. Et ma question, c'est comment on peut réussir, nous en France, éviter cela? Parce qu'on est divisé actuellement et on a tous le but, en tant que ministre, d'y arriver. Mais on va y arriver, divisé, pour ensuite laisser la place à... Et comment on fait pour y arriver? OK pour les candidatures, OK pour voter communiste, OK pour voter la lutte, mais comment on fait concrètement pour pas arriver dans nos travers?
Oui, en fait, sur les premières questions, la confrontation avec LFI, moi je crois qu'il faut replacer le cadre, quoi. J'étais d'accord avec l'introduction de Nathalie, dans le sens où, je vais être un peu provocateur, mais pour moi l'élection présidentielle elle est secondaire. Le plus important c'est d'organiser les luttes et de faire en sorte que les plus grosses grèves qu'on ait connues depuis 1995 pendant les élections présidentielles. C'est la meilleure manière de confronter, y compris avec la France insoumise, pour faire l'unité avec eux et avec tous ceux qui pensent que le capitalisme est néfaste, avec toutes les conneries qu'ils disent par ailleurs. Mais je veux dire, on va les acculer sous le contrôle d'Assemblée Générale, de grève, etc. On va les acculer à se prononcer sur un ensemble de questions concrètes, comme le rappelait un révolutionnaire classique, quoi. Répondons concrètement aux questions concrètes. Et excusez-moi, mais... Je terminerai là-dessus. La présidentielle, c'est secondaire. Ça va être un moment d'expression où on va exprimer des idées révolutionnaires, parce qu'on le pense, mais c'est surtout la mobilisation des gens qui n'attendent pas, surtout pas passivement devant la télé, les débats, quoi. Et qu'eux, ils rentrent en débat. Ils rentrent en débat par la lutte, par la grève et par d'autres formes d'action.
Peut-être quelques mots, même par rapport, si on reprend un petit peu sur les médias, beaucoup de choses passent par les médias, ça c'est sûr, mais pas que, hein, pas que. C'est tout à fait logique que dans une société où la bourgeoisie domine aussi ses idées politiques. C'est elle qui a le pouvoir, c'est elle qui réussit. C'est elle, quelque part, qui est capable de montrer l'exemple. C'est elle qui peut contrôler les progrès techniques. Vous voyez, c'est y compris dans la réalité. Dans la réalité, finalement, elle attire. Vous voyez, par les faits, en fait. Parce qu'elle domine. C'est pas que... C'est une réalité, ça, aussi. Et les idées, donc, de la bourgeoisie sont véhiculées par les médias, mais pas que. Aussi par l'éducation nationale, aussi par... voilà, par les rapports qu'on a les uns entre les autres, en fait. Donc, oui, les idées et les médias, ça pèse, ça c'est sûr. Mais objectivement, et je rejoins ce que dit le camarade, c'est pas parce que aujourd'hui les idées pro-patronales vraiment se répandent, et puis on en a des... C'est en permanence, moi, ça, c'est quelque chose effectivement qui me touche aussi, hein. Dès que tu ouvres la télé ou dès que tu ouvres la radio, il n'y a pas un seul jour où il n'y a pas un gars qui fait toute une chronique pour expliquer qu'il n'y a pas le choix, pour travailler plus. Il n'y a pas le choix, les arrêts maladie, c'est un problème. Hein, la retraite, c'est un problème. Il n'y a pas un jour. Enfin, les idées patronales, elles sont vraiment déversées comme ça, 24 heures sur 24. Hein, ça, c'est vrai. Mais en même temps, la réalité de l'exploitation, la réalité des coûts que les travailleurs ils se prennent dans les entreprises, la réalité des chefs qui vont sanctionner pour un oui, pour un rien, c'est une réalité que des millions de femmes et d'hommes se prennent dans la figure. Et quelles que soient les sornettes qui finissent par répéter de la télé ou quoi, cette réalité, elle peut les conduire à se battre. Et elle va les conduire à se battre. On en a aucun doute. Hein, la camarade disait, mais quand? Bah oui, bien sûr, tu te dis, mais quand? Et pourquoi? On peut dire pourquoi. Et on peut dire, mais enfin, on est en dessous de tout, mais enfin, on n'est pas beau, mais enfin, on est vraiment nul, on gobe, machin. Mais ça fera pas avancer le schmilblick. Hein. Mis à part développer encore un peu plus le sentiment d'infériorité qu'on a déjà bien, bien en nous, ça nous avancera pas. Hein. Y a plein de raisons qui explique que les gens ils se sentent pas forts et qu'ils hésitent, y compris d'abord et avant tout. Enfin, moi je me suis dit, voilà, il y a quand même toute une situation internationale qui pèse. Quand vous voyez ceux qui sont au pouvoir, comment ils peuvent assassiner tout un peuple. Hein, comment ils se conduisent? Comment ils sont en train ils affament aujourd'hui, on continue encore d'affamer les Palestiniens et tout ça, ça passe crème. Hein, et donc les gens ici qui ont plein de revendications, qui se sentent qui se sentent exploités, etc. Ils disent d'abord, ils peuvent se dire bon ben il y a quand même pire, hein, voilà. Finalement, en gros, moi là-dedans, je m'en sors pas trop mal encore. Hein, il y a peut-être ce sentiment-là aussi, hein, par rapport à toutes les catastrophes de par le monde. Bah, on a encore un peu de chance quelque part. Hein, ça pèse. L'idée que en face on a des gens qui sont effectivement sans pitié, ben ça pèse aussi. Et puis il y a aussi l'attentisme. Et l'attentisme électoral, c'est pas pour rien ça. Hein, parce que ça aussi ils ont le don de convaincre les travailleurs, hein, ben d'attendre toute leur vie les décisions d'un autre. Et ça, on est vraiment voilà, alors on attend les décisions d'un patron. Une fois que tu es embauché, tu attends sa décision pour savoir si tu vas avoir cette formation. Tu attends que le chef il dise oui pour pouvoir poser ton jour de congé. Tu attends les décisions de ton banquier, de ton proprio. Et puis, quand t'attends que les prochaines élections, quand tu as plus. Quand l'élection vient de passer, que tu as compris que tu as été un peu bête d'attendre. Hein, Macron, il est élu depuis 2017 et puis il n'est pas dans ton camp, bah t'attends quoi? T'attends les prochaines élections. Vous voyez? Donc tout le système, il est quand même aussi fait pour ça. Il est fait pour ça. Il est fait pour que les gens ils se sentent tout petits, qu'ils se sentent impuissants, qu'ils se sentent bloqués dans cette société, hein, et que finalement, ils attendent un sauveur. Voilà. Un sauveur. Et même dans les boîtes, les camarades, ils peuvent discuter. Hein, souvent dans les boîtes, tu n'attends pas une élection d'un président, mais tu attends que le syndicat, il agisse pour toi. Ça aussi, c'est un truc, vous voyez, qui est bien conçu de plus en plus. Donc voilà, il y a toutes ces raisons. Mais vous voyez, nous, on ne va pas passer notre temps non plus à faire la liste des raisons qui fait que pour l'instant, les travailleurs, ils restent l'arbre au pied. Hein, on redit que sur les 8 milliards d'êtres humains, il y a 90% d'exploités, que ce monde il est de plus en plus injuste, de plus en plus barbare pour tout cela, et que forcément, il y aura des révoltes, ça sera peut-être proche de nous, ça sera peut-être loin de nous, mais il nous faut une politique pour ça, pour ces révoltes-là. Voilà. Et dans ce que tu as dit, il y a quand même aussi un truc qui m'a touché, c'est que tu as dit, on souligne beaucoup les choses que le capitalisme fait de mal et que c'est leur job. T'as raison, et dans cette campagne, il faut aussi dire, justement, les possibilités que l'humanité a déployées, que nous avons déployées. Parce que finalement, les progrès techniques et tout ce qu'on fait de bien dans cette société, c'est nous. C'est nous qui en sommes la base. Et on fait des choses incroyables. On fait des choses incroyables. Moi, il y a des progrès techniques qui m'enthousiasment. Voir qu'on peut redonner la vue à des aveugles. Voir qu'on peut aider des gens à remarcher. Voir qu'on peut, on aura peut-être des vaccins pour certains cancers. Que, enfin voilà, il y a des choses, mais qui sont enthousiasmantes. Et qui montrent justement que le génie humain, quelque part, il continue d'avancer. Il continue d'avancer. Il y a un tas de choses qui se fait pour moi. Il y a un truc qui m'a réjoui cette semaine, je vais vous dire un truc très perso, mais voilà, je fréquente de près un EHPAD, hein, avec tout ce qu'on peut dire sur les EHPAD, un EHPAD public, hein, et un truc qui m'a vraiment touché, c'est que, voilà, le personnel, il a eu l'énergie d'emmener 9 résidents à la mer. C'est dans la Drôme, ils les ont embarqués au Gros du Roi et leur ont fait faire du catamaran. Tous en fauteuil roulant. Eh ben, voyez, cette énergie-là. Ce dévouement, toutes ces choses qui sont, voilà, qui nous font vivre, qui nous, ça vient des travailleurs, ça vient de nous. Et on est capable de choses merveilleuses, en fait. Et ça aussi, faut qu'on le mette en avant. Parce que nous aussi, notre optimisme révolutionnaire, il est fondé sur ça. Sur ce qu'on est capable de faire. Mais ce qui nous révolte, c'est que les capitalistes, ils le pervertissent, tout ça. Ils le pourrissent. Mais nous, c'est la base de notre conviction qu'on pourra construire un autre monde. Et il faut aussi qu'on en parle, je suis d'accord avec toi. Il y avait plein d'autres choses.
Alors, il y a une chose, par exemple, puisqu'on parlait de Mélenchon, qui m'a frappée. Lors de son dernier meeting, là, un petit peu, son meeting, où il y avait... C'était à vous ? À Saint-Denis, il y avait énormément de monde. Ils ont énormément communiqué sur les réseaux, mais dans leur communication, ce qui est frappant, c'est que tous les gens qu'ils interrogent et puis qui parlent en faveur de la fille, ils avaient tous le drapeau tricolore sur l'épaule. Et ça, alors là, je trouve que c'est vraiment notable parce qu'il y avait, c'était le fille. Et derrière, le fille était en train de reculer, et encore ce truc-là, c'était vraiment très large et puis très, ça voulait pas dire grand-chose. Mais alors là, vraiment, c'est le drapeau rouge et puis c'est le drapeau bleu-blanc-rouge. Et justement, je trouve que ça marque bien ce que vers où il veut entraîner la population et les travailleurs. Effectivement, nous, on a quand même des repères. Et justement, c'est notre drapeau rouge, facile. Hein. Là, on ne se trompe pas avec le drapeau rouge. Et puis, surtout, comment faire au jour le jour? C'est trop compliqué. C'est vrai qu'on est quelques travailleurs là, d'entreprises qui devront finalement arriver à gagner des gens autour de nous. Je trouve que ce qui est assez utile, c'est notre éditorial des bulletins d'entreprise toutes les semaines. Alors, il y en a à qui ça ne parle pas, il y en a d'autres à qui ça parle un peu plus. Mais par exemple, pour nous qui avons des bulletins dans les entreprises, le bulletin de l'hôpital où je travaille, il paraît tous les 15 jours. J'essaye quand même, dans la semaine où ce n'est pas mon bulletin, de partager le bulletin l'éditorial des bulletins d'entreprise de la semaine. Je dois dire que, par exemple, sur celui de l'IANA, j'en ai largement partagé, j'ai eu beaucoup de retours. Ça touche les gens. La façon dont c'est commenté par nous, les révolutionnaires, elle est unique. Elle explique beaucoup de choses sur cette société. Et je crois que quand on dit comment faire, il y a ça au moins. C'est ce qu'on dit nous, nos publications, nos vidéos. Parce que moi, souvent, je le partage en vidéo pour être sûr qu'il soit vu et entendu. Voilà, donc c'est des choses comme ça, hein, pour parler juste de manière simple pour nous, qui devons au jour le jour arriver à défendre nos idées, à les faire comprendre. Et c'est pas évident, parce que dernièrement, j'ai eu quand même une discussion où j'ai été quand même assez étonnée de voir que beaucoup de gens remettaient en cause, dans le syndicat, le fait que la Terre soit ronde ou que des hommes aient marché sur la Lune. J'étais en minorité. Donc, ça veut dire que les idées de réactionnaires, elles avancent, quoi. Elles nous grignotent, hein.
Donc, tout ça, tout ce qu'on dit, nous, vraiment, c'est des idées de science, de progrès. Et le communisme, vraiment, c'est la réponse. On a beaucoup de matériel dans nos journaux, dans nos bulletins, et ça, il faut s'en servir. Voilà.
Alors, j'ai pas du tout l'habitude de parler comme ça, et j'ai du mal à, probablement à retrouver mes mots. C'était par rapport à, on se sent petit ou inférieur, et bon, je lis à gauche, à droite. Un truc qui m'a touchée, c'est quand je lisais quelque chose qui me parlait, qu'on a de quoi être fier. On appartient, comment dire, on est une classe qui crée tout. Je l'ai déjà dit, donc. On peut être fier, en fait. On peut être fier d'appartenir à cette classe qui travaille, qui crée tout, qui est active. Et voilà, ça, je trouvais ça génial, en fait, qu'on n'est pas des petits qui attendent que les autres agissent. Et donc, je trouve que c'est beau, quoi. C'est beau et ça donne du pouvoir. Et je pense, oui, effectivement, c'est une question de temps que les gens se rendent compte. J'ai hâte. Qu'on est nombreux, qu'on a le pouvoir, dès qu'on arrête de travailler ou qu'on décide qu'on va plus faire comme avant, ben, tout s'arrête, en fait. Donc, le problème, c'est du coup de faire comprendre à tout le monde en fait, que c'est nous qui avons le pouvoir, si vous voulez, et qu'on crée cette conscience. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire.
Je travaille à Airbus sur les chaînes de montage, je suis un ouvrier. Il y a un peu plus d'un mois, il y a une grogne qui s'est installée dans les ateliers un peu partout. Donc il y a eu des pauses à rallonge, des grosses discussions. Et il y a donc un peu plus d'un mois, donc il y a un mois, sur un hangar, OH-175, c'est le nom d'un hélico, mais c'est le nom du hangar aussi. Il y a des collègues autour de deux camarades qui ont refusé de reprendre le travail. Donc c'est un débrayage. Ils ont officiellement refusé, quand le chef est venu, de reprendre le travail. Ils étaient une quinzaine. Ça a duré peut-être une demi-heure. Et ce qui est rigolo, c'est que à l'autre bout du hangar, c'est que ils ont cru que c'était la grève générale était arrivée. Donc dans l'autre hangar où il y a un autre camarade, en fait, il s'attendait à ce que l'usine se mette en grève. Donc ça a été le déclic dans la tête de certains collègues que c'était possible. Donc à l'échelle du hangar dans lequel je travaille, dans l'écureuil, donc je me suis servi de ce débrayage du H175 pour expliquer, réexpliquer. Les pauses étaient conséquentes. Plus que d'habitude, une vingtaine, une quinzaine, c'est pas anodin. Et aussi, nous aussi, mais c'était pas des débrayages, c'est les pauses, elles ont duré parfois une demi-heure au lieu d'un quart d'heure. Et dans la tête des collègues, ils se sont dit, c'est possible. Nous avons fait deux débrayages autour d'une prime qui a été divisée par deux. Donc, ça a pris. Et donc on n'a rien obtenu, mais au moins ce jour-là, enfin les deux fois, on a relevé la tête. Alors pourquoi il y a eu ça? En fait, la colère des collègues, elle était là. C'est pas nous qui avons créé cette collègue. Juste à l'échelle de notre petit groupe, nous l'avons organisée. Et ça, c'est important. En fait, nous, sans l'organisation, sans la colère, il peut rien se passer. Mais sans l'organisation, il ne peut rien se passer aussi. Donc, à l'échelle de notre petit groupe, nous avons organisé les débrayages. Et dans la tête des collègues, c'est plus pareil qu'avant. Il y a des discussions qui arrivent. Il y a des attitudes qui arrivent. Donc, alors, il n'y a pas la grève générale Airbus, sinon on ne serait pas là. Mais Voilà, c'est des points positifs qui arrivent, et tout ce que tu viens de dire avant aussi sur l'exploitation, ben c'est que malgré tout les coûts on les prend d'une manière ou d'une autre, et les coûts on les prend, et même si on dit on est ça on peut rien faire ou quoi, mais à un moment donné il y a des collègues autour d'une organisation, je reste persuadé qu'ils relèveront la tête.
Bonjour. Moi, je voulais revenir sur l'anecdote avec le drapeau bleu, blanc, rouge et la France insoumise, mais bien au-delà de garde parti, on va dire. L'histoire du... on commence à réentendre, en effet, et ça fait un moment de ça, on commence à reparler de nations au service, enfin en tout cas dans un engagement à la guerre, et on commence du coup à avoir des discours nationalistes qui fleurissent. Et je voulais reparler quand même de ce qu'on peut aussi entendre au sein de nos syndicats, où on a entendu il y a quelques mois de ça la fraîchement réélue Sophie Binet à la CGT dire qu'il fallait défendre les entreprises française, voilà. Ce discours-là, on l'a déjà entendu, hein, on l'a déjà entendu à l'aube des guerres, de la Seconde Guerre ou de la Première Guerre mondiale. Et nous, il faut que ça nous interroge vraiment en tant que travailleurs et travailleuses, parce que la conscience de classe, elle est internationale, et on a vraiment besoin de faire sauter aussi le carcan de ce drapeau-là. Ce drapeau-là, ok. Moi, je me sens foncièrement française, quoique, mais comme je peux, on peut se sentir aussi venant de partout. Et vraiment, la conscience de classe, elle a besoin de cet internationalisme-là. Et je voulais vous parler d'une anecdote. Moi, je travaille dans le spectacle vivant. Je refais ma blague un peu lourde, je suis désolée, mais qui est bientôt mort. on a maintenant, ça fait quelques années maintenant déjà, malheureusement, que... les créations sont soumises à une forme de censure. On n'est même pas obligé d'aller jusqu'à la censure, vu que des spectacles qui portent des sujets comme, par exemple, des luttes de travailleurs ou qui va parler de genre ou de rendre visible une forme de culture qui n'est pas légitimée, qui n'est pas celle qu'on entend tous les jours à la radio ou à la télévision, juste ne sont plus financées. Donc il n'y a plus de financement pour des spectacles qui font réfléchir, qui posent aussi un regard différent, voilà. Et on en est vraiment, à l'heure actuelle, à avoir dans les grandes maisons du service public, que ce soit les maisons de la culture, les scènes nationales, des spectacles qui font consensus. Donc on en est vraiment à ce que la culture ne soit qu'un divertissement et ne donne plus des sujets à penser. Et l'anecdote que je voulais partager avec vous, c'est que si la création en France à l'heure actuelle, elle est brimée, ce n'est pas le cas des compagnies étrangères qu'on peut accueillir. Et donc ces compagnies-là, elles peuvent arriver avec un discours qui nous vient faire écho. Et je pense que c'est vraiment ça que moi je peux retrouver aussi à l'Utouvrière et qui me plaît beaucoup, c'est ce discours internationaliste-là. Parce que nous, en France, si, en effet, il y a quelque chose où on essaye de nous tuer cette réflexion-là et cette conscience de classe, c'est vraiment en regardant aussi, en suivant aussi l'exemple des autres pays autour de nous, qu'on peut se sentir appartenir à cette grande classe. Merci.
Je travaille aussi à Airbus, mais à Airbus Helicopters Marignane, mais il y a une usine qui fabrique les pales pour les hélicoptères qui est au Bourget, en région parisienne. Au moins de 1000 personnes qui y travaillent, et elle a beaucoup embauché à cause de la croissance du renouvellement du personnel. Ils ont beaucoup embauché des jeunes d'origine immigrée des cités du coin. Et la CFTC, le syndicat chrétien, a monté un syndicat avec eux sur une base confessionnelle, pas chrétienne mais musulmane. C'est-à-dire qu'ils ont donné le mandat de délégué de la CFTC à un musulman militant, et ils ont recruté les gens qui étaient d'origine maghrébine ou africaine en disant: on est entre nous, la CGT et les autres, c'est les syndicats des Français, et nous, on est à part. Donc ça a posé un problème, parce que déjà, ça coupait, ça induisait une coupure qui existait déjà du fait aussi du racisme des Français. Ça a un peu aggravé les choses. Et donc, les jeunes ouvriers originaires de ces cités, ils avaient leur chef à l'usine, leur chef syndical et leur chef à la mosquée. Donc, c'était une manière aussi vraiment d'encadrer, avec quand même la bienveillance de la direction, de séparer les travailleurs entre eux. Alors, ça a aussi provoqué, ça a aussi renforcé le camp des racistes qui existent dans l'usine. Il n'y a pas de problème, ça vient bien aussi des deux côtés. Et les quelques collègues qui ne militent pas sur ces bases-là, ils étaient un peu déprimés de voir ça. Est arrivée la question de la prime dont on a parlé, dont a parlé Christophe, dont a parlé Rémi dans l'introduction. Et là, ça a choqué beaucoup, et y compris les catégories les plus exploitées, les plus mal payées et les plus jeunes. Ils se sont dit, pas question d'accepter ça. Et donc, en particulier ces gens-là, qui étaient de la CFTC, qui se revendiquaient, la CFTC qui mettait au ramadan, bon ramadan mes frères, qui étaient vraiment annexés par le syndicat, ils se sont mis en grève. Et ils ont formé la plus grosse partie du cortège des grévistes. Donc ça montre qu'il y a eu cette réaction du prolétariat, vraiment de la classe ouvrière d'en bas, malgré tous les freins, malgré la CFTC qui était contre la grève, malgré Faux qui était contre la grève. Ils se sont retrouvés à 200 grévistes, dont seulement 25 de la CGT qui était à l'origine de l'appel, d'après ce que m'a dit un collègue, mais par contre le gros des troupes, c'était ces jeunes d'origine immigrée, qui étaient catalogués musulmans, mais là qui se retrouvaient en tant que prolétaires à se battre sur une base de classe. Et ça c'est important parce que ça montre que la classe ouvrière, ils cherchent à la diviser, ils cherchent à nous diviser. Je ne reviens pas sur ce qui a été dit, mais qu'elle a quand même des trésors en elle-même, elle a des ressources par rapport aux attaques que nous subissons, elle a des ressources de réagir ensemble. Le problème, c'est qu'une fois que la grève est passée, chacun retournera chez lui, malheureusement, et que ses collègues ils resteront sous l'emprise de leur syndicat et que les autres resteront un peu chez eux. S'il n'y a pas une organisation, justement, de révolutionnaires, s'il n'y a pas un message politique pour prendre le relais de ça, pour dire, dans la grève, on était fort, quelle que soit notre origine, parce qu'on se battait contre le patron, une organisation militante qui dit ça, on risque de repartir un peu en arrière. Alors, les collègues qui m'en parlent, qui travaillent au Bourget, m'ont dit que déjà, ça a amélioré les relations entre les différents collègues. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais pour pas que ça retombe, il faut quand même maintenir cette idée au quotidien. Et quand Christophe disait que c'était notre petit groupe qui avait quand même lancé des débrayages depuis un mois dans différents secteurs, des petits débrayages, c'est parce que même à contre-courant, même quand on n'est pas nombreux, on peut donner corps à tout ça, on peut donner des idées à tout ça, on peut donner des perspectives qui ne soient pas les perspectives des syndicats, et c'est important. Et ce que tu disais, Fred, quand tu disais que l'élection présidentielle n'est pas importante, si tu veux dire que ce n'est pas l'élection présidentielle qui changera la vie, d'accord avec toi. Mais l'élection présidentielle, elle est quand même importante, justement pour ce que je viens de raconter, parce qu'il faut que de la classe ouvrière s'affirme un courant communiste internationaliste, qui puisse justement, et qu'on puisse se compter sur la candidature de Nathalie cette fois-ci, parce que c'est ça qui nous permettra aussi de maintenir la permanence de cette idée, d'animer des discussions, de rendre crédible la perspective communiste, parce qu'il y aura, ce courant qui existe dans la classe ouvrière et qui ne sera pas incarné par les autres. Je ne veux pas polémiquer avec les autres, mais ils ne représentent pas le camp des travailleurs. Mélenchon n'est pas un traître, il a toujours servi la bourgeoisie, toujours. Admirateurs de Mitterrand, tous, le Parti communiste, le Parti socialiste, c'est des partis de la bourgeoisie. Donc, il n'est pas question, je ne les critique même pas, il faut que le camp des travailleurs, le camp communiste révolutionnaire, s'affirme de l'intérieur. Et je pense que l'élection présidentielle, ça pourrait être un moyen de se compter.
Non, juste, moi aussi, je suis à Airbus, mais justement, ce qu'il faut, je pense, comprendre, c'est que on n'a pas la main sur les réactions des travailleurs, où que ce soit dans le monde et dans nos entreprises respectives aussi. On n'a pas la main sur la réaction. Par contre, comme le disait, le racontait Christophe ou François tout à l'heure, mais c'est que pendant des mois, pendant des mois, des années même, on peut dire, les dernières réactions collectives qu'il y a eu à Airbus, c'était en 2023. Bon, ça commence à remonter. Il n'empêche que pendant des années, là, donc du coup, on discute, et les mêmes gars nous disent « Les autres, c'est des cons, il n'y a personne qui va bouger, tout le monde a le cul à la tête dans le guidon, etc. » Et donc, ça ne bougera jamais. Bon, et les mêmes, du jour au lendemain, effectivement, ils s'énervent, ils se mettent en colère, ils s'organisent, ils se rassemblent, que ça soit à la pause ou ailleurs, etc. Et effectivement, du jour au lendemain, alors que les mêmes disaient ça bougera jamais, ben en fait ça bouge. Et le problème, c'est que ça, on n'a pas la main là-dessus. Ce sur quoi on a la main, nous, en tant que communistes et révolutionnaires, c'est sûr, effectivement, ce que dit François tout à l'heure, c'est que il nous faut une organisation. Il nous faut une organisation révolutionnaire, il nous faut un parti de travailleurs. Un parti de travailleurs avec des idées qui soient claires et effectivement, qui soient internationalistes, qui soient communistes, etc. C'est-à-dire que donc, on dénonce les véritables responsables de cette situation, qui sont les capitalistes. Les autres, tous les autres, que ça soit depuis Mélenchon jusqu'à l'extrême droite, chacun, il a son petit couplet pour défendre les capitalistes, pour défendre les intérêts des capitalistes et pour introduire à la tête des travailleurs tout un tas de choses qui sont liées à la division. Ils veulent nous diviser. Et chacun d'entre eux, avec le drapeau bleu, blanc, rouge, bien évidemment, mais chacun d'entre eux, ils veulent nous diviser d'une manière ou d'une autre, avec leur discours raciste ou réformiste ou ce que vous voulez, mais ils sont là pour nous diviser. Et nous, il nous faut un parti. Il nous faut un parti qui soit clair dans sa tête. Notre ennemi, c'est les capitalistes, c'est nos patrons. Quelle que soit l'entreprise dans laquelle on est, que ça soit une petite boîte, une grosse boîte, une très grosse boîte, ce sont nos patrons, nos ennemis. Et ça, il n'y a qu'un parti communiste révolutionnaire qui peut le dire. Et l'autre aspect, c'est que non seulement ce sont nos ennemis, mais en plus de ça, notre programme, c'est celui en fait de leur arracher le pouvoir, c'est-à-dire de leur arracher leurs entreprises, de leur arracher tout ce qu'ils ont, leurs capitaux. Quand Nathalie, elle dit les milliers de milliards, je ne sais même pas combien ça représente, et il n'y a personne ici qui sait combien ça représente. Mais ce qui est sûr, c'est que ça représente, en réalité, ça représente quoi? Ça représente notre sueur, le sang de je ne sais pas combien de peuples là, qui sont écrasés par cette puissance, mais qui, comment vous dire, il faut vraiment qu'on se dise que il faut qu'on crée ce parti communiste révolutionnaire, il faut qu'on crée ce parti des travailleurs. Et ça dépend de nous, par contre. Que les gars, ils changent à un moment donné d'avis, qu'ils se disent, aujourd'hui, je bouge pas, demain, ça bouge. Juste pour revenir sur Airbus, un vendredi, on débraye. Le lundi, on débraye. Et puis, pendant une semaine, il se passe plus rien du tout. Et des gars qui ont dit non, on sortira pas pour X ou Y raisons, ils avaient toutes les raisons du monde de pas sortir. Les mêmes mecs, les mêmes gars dans l'atelier, eh ben ils débrayent. Spontanément, quasiment spontanément, à 20, à 30, tout, à 100% du secteur qui débraye. Pourquoi? Pour soutenir en fait un intérimaire, parce que le patron, parce que son chef, il voulait le virer parce qu'en fait, il critiquait le fait qu'on allait lui retirer des heures supplémentaires et que du coup, ça allait baisser son salaire. Juste parce qu'il a dit ça, le chef, il décide de le virer, de lui faire finir son contrat et de le virer. Et bien là, les gars, ils ont dit, prends le téléphone, on va appeler le chef, et il descend. Ils ont convoqué le chef. Ces mêmes gars qui ne voulaient pas sortir une semaine avant. Donc ça veut dire qu'en fait, l'état d'esprit, il peut changer. Et nous, j'arrête là, mais en tout cas, il faut qu'on crée ce qui dépend de nous, c'est notre volonté de créer un parti communiste révolutionnaire, un parti des travailleurs, partout, dans les entreprises, dans les quartiers, et il faut qu'on utilise tous les moyens, que ce soit les moyens de campagne électorale, etc., et aussi notre bulletin d'entreprise, ce dont parlait Nathalie tout à l'heure, il faut qu'on l'utilise, et il faut qu'on le déploie partout, dans toutes les entreprises, partout dans les quartiers, etc. Il faut vraiment qu'on le crée, ce parti, les camarades. Et ça dépend de nous, vraiment de nous.
Oui, bonjour, rebonjour, rebonjour. Tout à l'heure, Amy, tu disais, je ne sais même pas à quoi ça correspond, les milliards, les machins. Moi, j'ai un truc. Il y a un monsieur, il s'appelle Matt Franch, je crois, un truc comme ça. C'est un mathématicien. Il a fait la conversion en secondes. Alors, un million de secondes, c'est environ 11 jours. OK ? Un milliard de secondes, c'est 32 ans. Si on garde cette échelle-là, la fraude aux allocations chômage, c'est pas bien. Mon orgue, c'est pas bien. Ça coûte 58 millions d'euros. En secondes, 58 millions de secondes, c'est un an et demi. La fraude et l'évasion fiscale, quant à elle, s'élève au minimum à 80 milliards. Et en secondes, ça fait 2975 ans. Donc, ne nous trompons pas d'ennemis. Voilà, c'est tout ce que j'avais.
Juste une aparté pour sur ce qu'a dit Rémi. À la réunion publique en janvier, François avait eu un message presque christique là-dessus, disant que, alors, je sais que c'est pas notre tasse de thé, hein, mais non, en fait, il faut que le jour où la classe ouvrière se lève, il faut qu'elle nous trouve sur son chemin. Voilà. J'avais nous ou quelqu'un d'autre qui partage les mêmes idées communistes et révolutionnaires. J'avais beaucoup aimé. Non, je voulais vous parler de ce qui se passe à l'université à Aix-Marseille, donc c'est pas la première année, sur la marche à la guerre. Donc il y a un bonus défense qui a été mis en place, et donc si vous êtes un peu ric-rac pour valider votre année, si vous êtes à 9,5, vous pouvez aller en fait participer à une dizaine de conférences données par un chef d'état-major de la région, et ça vous donne en fait un demi-point qui vous permet de valider l'année. Voilà. Donc c'est le bonus défense, voilà. C'est pour qui est ric-rac pour valider son année à l'université, hein, pas dans les classes préparatoires ou autres. C'est les mêmes en fait. C'est dans la lignée des classes défense au collège et au lycée, et c'est dans la lignée de ce service militaire rémunéré 800 euros pour attirer les pauvres. Voilà. Donc et ça va certainement être conduit l'an prochain, on verra. Mais en tout cas, voilà, ça s'insinue de partout. Et en fait. Malheureusement, ça en discute pas trop chez mes collègues en tout cas. Et ça en discute chez les étudiants, mais chez le personnel de l'université, ça n'en parle pas trop pour le moment.
Là-dessus, je voudrais réagir parce que ça fait partie de leur problème quand même. Parce que en effet, pour eux, ils veulent absolument qu'on soit prêt à faire la guerre pour défendre les intérêts des capitalistes. Français. Ils savent pas tellement avec qui, contre qui. En tout cas, pour l'instant, tout ça n'est pas complètement arrêté, en fait. Hein. Tout ça n'est pas complètement arrêté, mais ils savent que il faut se tenir prêt, parce qu'aujourd'hui, la concurrence est aiguisée, parce que, y compris, chacun commence à tester les armes, et parce qu'il y a des camps qui commencent à se former, et bon, aujourd'hui, les contentieux se règlent avec des flingues. Mais ils sentent que la population, elle est quand même pas prête, en fait. Ils ne nous ont pas encore assez travaillé au corps. Hein. La propagande, elle est permanente, mais quand même, vous voyez, ils sont encore au stade préparatoire. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Qu'est-ce qui pèse, là, aujourd'hui, sur Trump? C'est bien sûr que l'Iran résiste, ça c'est sûr. Que l'Iran résiste, qu'il a un régime qui s'est pas couché depuis 79 devant l'impérialisme américain, hein, et il continue de résister. C'est pas un petit pays, c'est une puissance aussi industrielle, aussi qui a peut-être des armements, comment dire, low cost, comme ils disent, hein, leurs drones low cost, mais bon, ils résistent. Hein. Donc il est tombé sur cette hausse-là, c'est sûr. Mais il y a aussi un autre aspect qui le gêne beaucoup. C'est quand même que la population américaine est hostile à la guerre. Et ça aussi, ça le gêne. Ça l'entrave, en fait, dans son action. Parce que, qu'est-ce qui... Peut-être qu'on peut imaginer qu'il aurait lancé davantage... peut-être qu'il serait allé, peut-être qu'il aurait essayé de débarquer, ne serait-ce que sur l'île de Karg, là, vous savez, où il y a l'essentiel de l'armement et qui sert de verrou au détroit d'Ormuz. Ils auraient peut-être pu faire plus de choses. Mais quelque part, il y a eu les mains liées par la population, par le fait qu'elle était hostile, voyez. Et tout ça, ça compte. Pour faire la guerre, ils ont quand même besoin, sinon de nous convaincre, du moins qu'on les laisse faire, qu'on soit consentant passif, quoi. Voyez. Ils ont besoin de ça. Et ils n'y sont pas encore. Donc il faut qu'on prenne conscience de notre force à nous. Si on a la conscience que dans ces guerres-là, hein, c'est l'opposé de nos intérêts, et que c'est une autre façon de crever pour la classe capitaliste d'aller mener ces guerres, si on a cette conscience-là, et qu'on est capable de dire non, qu'on est capable de s'opposer, y compris à les livraisons d'armes, si il y a une révolte de la part des travailleurs qui empêche les échanges, la fabrication de la machine de guerre, etc., bien sûr qu'ils ne peuvent pas la faire, la guerre. Même là-dessus, vous voyez, il y a un immense sentiment d'impuissance des gens qui disent « Mais qu'est-ce qu'on peut faire s'ils décident ça ?» Ben, en réalité, ils peuvent rien faire sans nous. Et ça aussi, il faut le dire et il faut le souligner. C'est important, y compris dans l'actualité, y compris dans les rapports de force d'aujourd'hui, on le sent. Alors aujourd'hui, ils en sont pour aiguiser notre sens militariste, ils en sont à mettre des bonus. Mais tu vois, c'est quand même, je dirais, c'est presque l'expression de leur faiblesse en fait. Enfin bon, ça veut dire que, vous voyez, ils peuvent pas, ils vont pas nous faire marcher comme ça tout de suite là. Hein, ils sont pas prêts, ils ont pas assez préparé les esprits, ils nous ont pas assez retourné la cervelle encore. Vous voyez, hein, et ça, il faut être fort de ça. Il faut être fort de ça. Il faut rappeler aussi que précisément, la révolte des travailleurs a réussi à mettre fin à une guerre. Lors de la Première Guerre mondiale, si les hostilités se sont arrêtées sur le front de l'Est, c'est parce qu'il y a eu une révolte des ouvriers et des paysans qu'on avait fait endosser l'uniforme de soldat. C'est leur révolte qui a mis un coup d'arrêt à la guerre. Précisément en Ukraine, là où il y a cette nouvelle guerre fratricide. Hein, et ça, c'est la preuve de ce que sont capables les travailleurs quand ils relèvent la tête, quand ils ont pigé que leurs généraux, que leur patron, que leur chef d'État sont pas de leur côté. Et ils veulent se servir d'eux, comme de la chair à canon ou de la chair à exploiter. Quand ils ont pris conscience de cela, ben en réalité, ils sont capables d'arrêter et de changer de changer l'histoire, en fait. De changer l'histoire. Parce que quand ils se sont levés, quand ils ont fait cette révolution au moment de la Première Guerre mondiale, ça a changé le cours de l'histoire. Parce que ça a donné, évidemment, cette révolution, elle a parlé aussi à plein d'autres peuples qui vivaient cette même boucherie, etc. Enfin, je ne vais pas refaire toute l'histoire. Mais en tout cas, voilà, la classe ouvrière, elle a derrière elle une longue histoire. Et elle a fait ses preuves à plein de niveaux, en fait. Bon, d'abord, j'ai envie de dire, et tu le soulignais hein, tout à l'heure, on fait nos preuves tous les jours. Parce qu'on l'a fait quand même marcher, leur société. Pourtant, eux, ils s'obstinent à la désorganiser, ils s'obstinent à en faire à peu près n'importe quoi. Pourquoi les hôpitaux, ils continuent de tourner? Pourquoi plein de boîtes, elles continuent? C'est parce que voilà, il y a ce dévouement, il y a cette implication de nous, à la base. Donc on fait nos preuves dans le fait de la fête. Mais on a fait aussi nos preuves en matière de révolte, et en matière de capacité à réorganiser l'économie à plein de reprises. Cette histoire-là, faut qu'on la connaisse. Et il faut qu'elle nous conforte.
Ouais, je vais essayer de faire court, mais je suis pas très fort pour ça. Je travaille à l'hôpital d'Aubagne, un hôpital public. La santé, c'est un secteur, on m'a pas beaucoup parlé aujourd'hui parce que c'est comme ça. Ça fait partie des multiples sujets. C'est un secteur qui attire beaucoup les capitalistes, puisqu'il y a beaucoup de clients qui sont de plus en plus vieux et de plus en plus malades. Donc, il y a des sous. C'est un secteur technologique. Donc, du coup, c'est très intéressant. C'est profitable, c'est croissant, et c'est un secteur où, en plus, l'argent, ça vient de l'État, c'est parfait. Nous, à Aubagne, excusez-moi, j'ai pas l'habitude de parler devant tout le monde, on a un plan d'efficience. Avant, on aurait dit plan social, et puis encore avant, on aurait dit plan de licenciement. Ça veut dire que sur la masse salariale de 700 employés, on va virer 60 personnes, ça c'est l'objectif. Alors, ils ont pas prévu de virer des docteurs et des directeurs. Ils ont prévu de virer des aides-soignants, des ASH, des infirmières, des secrétaires, des brancardiers, bref, tous ceux qui sont tous les jours au contact des soignants. Nous, à l'hôpital, on a du mal à se bagarrer parce que, pareil, la conscience de classe, elle n'est pas très présente. Parce que, nous, quand on veut se mettre en grève, c'est compliqué parce qu'on est réquisitionné. Donc là, la direction, elle a fait passer un message pour dire si vous descendez à la grève, il y a eu un mouvement de grève mercredi. Vous n'avez pas le droit, même sur vos temps de pause. Donc, il fallait pas travailler pour pouvoir être en grève, comme ça on n'est pas compté dans les grévistes. Donc voilà, c'est difficile. En plus, nous on a une population qui va être virée, je pense qu'elle sera 90% de femmes. C'est surtout des femmes qui font tourner les hôpitaux. Donc ça veut dire aussi des gens qui ont moins cette énergie aussi, cette capacité qu'on retrouve plus. Là, on a entendu beaucoup de collègues d'Airbus. Moi, j'adore, hein, mais Nous, on a moins ce truc peut-être pugnace, tu vois, à l'hôpital. Et voilà, on est là, on ne sait pas trop comment se bagarrer. Donc, c'est aussi peut-être un peu le sens aussi de mon intervention et une petite question, comment on ferait, quoi, comment vous nous conseillerez de nous bagarrer. Avec Agnès, on a discuté aussi parce que là, on se bagarre pour sauver 60 postes. L'année dernière, on se bagarrait et on est toujours en train de se bagarrer pour sauver le laboratoire. Le laboratoire, la biologie médicale, c'est quelque chose qui est quasiment comme la radiologie entièrement privatisée en France, parce que derrière toutes ces suppressions d'emplois, c'est les appétits du privé qui sont majeurs, des cliniques privées, des EHPAD privés, de la santé privée, parce que là, par contre, il y a des sous à se faire. Et avant ça, on se bagarrait pour empêcher le service de radiologie de se transformer en PPP, vous connaissez tous, hein, ce super partenariat privé-public qui est toujours à la défaveur du service public. Et encore avant, on se bagarrait pour garder la réanimation ouverte, c'était en 2017. Alors là, la bagarre, on avait réussi à l'obtenir en 2017. L'histoire nous a montré qu'on avait bien fait, puisqu'en 2019, on affrontait la plus grosse épidémie qu'on a jamais vue, nous, dans les hôpitaux, et on l'a vraiment vécu de plein fouet. Et voilà, tout ça pour dire que l'hôpital public, c'est 4 patients Covid sur 5 qui ont été soignés dans les hôpitaux publics, alors que le service public est de moins en moins représenté, voilà. C'était ça. Et donc, si vous pouvez me dire un peu comment vous imaginez, quels outils on peut utiliser pour essayer de se bagarrer un peu pour défendre notre service public.
Ouais, rapidement, revenir sur tout ce qui a été dit, c'est quand même pas la peine. Donc, je vais essayer de faire court, alors que d'habitude, je suis très long. Vous voyez ? Donc, ça va être une performance. Les élections, Pierre Jacon. C'était un social traître qui l'avait dit, et je pense que les élections ne peuvent servir à lutte ouvrière que de plateforme de démonstration de ses idées et de ses positions, puisque vous restez quand même, je dis vous parce que j'ai juste un pied, donc vous restez le seul parti révolutionnaire audible à mon sens, et dont les idées n'ont jamais bougé. Voilà. Donc c'est pour ça, à mon avis, c'est la chance de lutte ouvrière. Voilà. J'ai l'impression que les gens nous accueillent comme ça, comme des gens honnêtes, en fait. Alors que la politique, c'est devenu, malheureusement, je pense qu'on peut tous le regretter, c'est devenu quelque chose de bas et de dévoyé. Mélenchon met un drapeau bleu-blanc-rouge sur son épaule. S'il fallait défendre les Bretons, il aurait mis un drapeau breton. C'est des gens qui vendent qui tentent d'acheter les voix, en fait. C'est comme ça que je vois la politique, pour l'avoir un petit peu fréquenté aussi. On va dans un EHPAD parce que ça va faire des voix. On subventionne telle ou telle association parce que ça va nous faire des voix et qu'on va les amener voter par bus, exemple vécu, etc. etc. Donc oui, une tribune, mais pas plus, quoi, hein, parce que sinon c'est se dévoyer aussi, c'est faire comme les autres, quoi. Voilà. Je pense pas que ça soit le genre de la maison, n'est-ce pas? Voilà. Et je voudrais finir par une question. Quel est votre ressenti sur le silence, c'est même plus un silence, vis-à-vis de ce qui se passe à Gaza, au sud du Liban, dans un petit bout de la Syrie aussi, et à votre avis, cette apathie de nos responsables, mais aussi des ouvriers, elle serait due à quoi? Enfin, merci.
Merci. C'est en lien avec les sujets bleu, blanc, rouge, Mélenchon, et un peu avec ce par quoi tu avais commencé, c'est-à-dire la folie autour de l'IA. Parce que donc l'IA, c'est une énorme bulle spéculative, mais c'est aussi un changement technologique important qui produit énormément de tensions, en fait, à toutes les échelles de la société. Moi, je travaille dans la recherche dans l'IA pour la santé, donc c'est un sujet que je connais bien, enfin, que je suis un peu. Et là, par exemple, cette semaine, en revenant dans les actualités, il y a le gouvernement américain qui a bloqué le modèle d'IA le plus puissant actuellement conçu par la société anthropique, et tous les dirigeants français de Mélenchon, enfin tous les candidats à la présidentielle, à part toi, de Mélenchon à Bardella, ont dit, alors Mélenchon il a dit la France ne doit pas devenir une colonie des États-Unis, donc déjà il associait tout de suite un modèle technologique développé par une science internationale, sachant que l'IA ça a été développé vraiment par à peu près des chercheurs de tous les pays, c'est vraiment assez absurde de se l'approprier comme ça, de l'associer aux États-Unis. Donc il a dit ça ne doit pas devenir une colonie des États-Unis. Bardella, il a dit lui, il faut absolument que la France soutienne davantage Mistral AI, qui est la société française, dont ils se sont attribués un peu la devise de l'école polytechnique, qui est pour la science, la patrie et la gloire. Donc pour donner une idée un petit peu de ce que cette société qu'on qualifie souvent de progressiste et qui est très appréciée dans les milieux progressistes représente. Et en fait, moi, quand j'en discute avec mes collègues, surtout avec les jeunes, en fait, ce dont je me rends compte, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont vraiment ces raccourcis tellement ils baignent dedans, de se dire que, Anthropique, la société américaine, c'est Trump, c'est les États-Unis de Trump, et il faut pas leur laisser le pouvoir, et qu'en fait, les idées nationalistes, même j'aurais tendance à dire que beaucoup de dirigeants de LFI, ils sont tellement habitués aux idées nationalistes qu'ils les suivent tout le temps, et que dans cette logique-là, en fait, si on rappelle pas les idées internationalistes, ça devient presque naturel de se dire « Ah bah oui, il faut se replier sur soi, parce que nous, on sera capable de faire des choses mieux. » Donc merci déjà de porter les idées internationalistes à la présidentielle de l'année dernière. Souvent, quand on en discute, surtout avec les jeunes, ça arrive à changer un petit peu, quoi. Mais en fait, ces idées sont tellement peu présentes dans la sphère publique que le réflexe, c'est toujours de sauter sur ce qui mène au conflit et ce qui transforme une des technologies actuelles les plus prometteuses en source de guerre sans fin, quoi. Merci.
Oui, moi, c'était juste pour répondre aux camarades sur l'hôpital. Je travaille aussi à l'hôpital. Tu as commencé en disant le privé veut mettre la main dessus parce qu'il y a beaucoup d'argent à se faire et tout. Je pense qu'il y a quand même un double truc, quoi. C'est-à-dire que oui, il y a de l'argent à se faire quand il y a un marché pour eux. C'est-à-dire par exemple, en ce moment, il y a une épidémie d'Ebola au Congo. Là, il n'y a pas de marché. Ils en ont rien à foutre, quoi. Enfin voilà. Donc c'est pour dire, c'est pas si simple. Et puis les attaques sur du coup dans la santé. Dans un pays comme la France, bah, d'un côté, il y a cet appétit du capital qui veut mettre la main sur tout, et il y a quand même vraiment aussi une politique d'économie drastique et qui est de pire en pire. Moi, ça fait 5 ans que je travaille à l'hôpital. Chaque année, on marque on a l'impression de franchir des caps, quoi, quelque part. Et ça, faut être conscient que oui, ça va continuer, avec cet effort de guerre, tout ça. Enfin, ils nous annoncent la couleur. Là, j'entendais encore la ministre qui disait qu'elle voulait diminuer d'un tiers les passages aux urgences et tout. Bon, c'est voilà. Après, comment s'y prendre pour se battre? Je pense qu'on n'a pas forcément de recette. Là, je trouve que ce qui est intéressant dans ton cas, c'est que c'est quelque chose qui touche tout l'hôpital, ce qui est rare. Souvent, ils attaquent un peu par catégorie, par service, tout ça. L'hôpital, c'est quand même très divisé. Il y a beaucoup de corporatisme, il y a tous ces trucs-là. Donc là, je trouve que c'est un peu une chance, entre guillemets. Enfin, voilà, c'est tout l'hôpital qui est attaqué. Il y a peut-être, ça peut peut-être rendre le truc plus facile. Et après, ce que je voulais dire aussi, c'est que je pense qu'il y a, enfin, moi, c'est ce que je vois autour de moi. Il y a beaucoup de discussions à avoir sur le lien entre ce qui se passe, justement, dans l'hosto et Elon Musk qui a 1000 milliards de dollars. Parce que ce lien, il n'est pas si évident. Et souvent, les collègues, il y a le lien avec la guerre de classe que nous mène la bourgeoisie, il est peut-être moins évident à saisir que quand on bosse pour Amazon, quoi. Et pourtant, il existe. Et en fait, le lien, il est total. Donc, ouais, je trouve qu'il y a aussi beaucoup de discussions à avoir sur ça, quoi, avec les collègues.
Oui, moi, je suis complètement d'accord avec le camarade. Si on n'a pas de recette miracle pour que tes collègues s'unissent comme un seul homme et puis forcent, l'hôpital à reculer sur telle ou telle suppression d'emplois. On n'a pas de recette miracle là-dessus. Et notre combat, faut bien sûr dire que c'est insupportable, qu'il faudrait être capable de le faire. Il faut bien sûr essayer de tout faire pour encourager les collègues à bagarrer. Mais il faut surtout pas baisser les bras et se dire que quel que soit ce que les nôtres ont envie de faire, on a un combat politique à mener, et ça, tous les jours. Tous les jours, c'est le combat que le camarade y racontait, expliquait que justement la situation des travailleurs de la santé, c'est la même que la situation des travailleurs de la SNCF, c'est la même que la situation de tous les travailleurs, que c'est la même, et que tout ça, on est lié à la même chaîne, on est prisonnier de cette même société capitaliste. Et c'est vrai qu'il y a des liens. Quand ils décident de faire 36 milliards de plus sur la loi de programmation militaire, mais c'est 36 milliards qui vont manquer aux hôpitaux, c'est une évidence, qui vont nous manquer, nous, au quotidien, pour la radio, pour les brancardiers, pour tout. Donc il faut qu'on fasse le lien, il faut qu'on politise, même si les travailleurs, pour plein de raisons, ils restent l'arme au pied, ils ne voient pas, ils n'ont pas confiance en eux, et ils n'ont pas l'énergie, ou je ne sais pas comment l'analyser, mais en tout cas, politiquement, on peut quand même aussi les faire avancer, et ça, il faut continuer ce combat. Il faut continuer de le mener. Et sur l'IA, donc, oui, tu as raison de dire que les patrons de Mistral, c'est les mêmes que les patrons d'Anthropic, de OpenAI. C'est exactement les mêmes avec moins de fric. Avec moins de fric, avec moins de puissance pour lever les milliards, et y compris ici, je savais pas qu'ils avaient pris ce slogan pour la science, la patrie et la gloire. Mais ça, pourquoi ils disent pour la science, la patrie et la gloire? Parce qu'ils veulent que l'État leur file du pognon, hein? Voilà, ils veulent que, donc bien sûr, ils disent pour la patrie, évidemment, ils veulent que l'État leur file des milliards et des milliards, hein? Donc pour nous, c'est tous les mêmes, et on va pas dire que ceux qui développent l'intelligence artificielle, parce qu'ils seraient français, hein, seraient meilleurs que les autres. Pas du tout. Et sur cette histoire d'intelligence artificielle, oui, sans doute que c'est une technologie qui est en train de révolutionner un tas de choses, et que ça va avoir des conséquences dans notre vie quotidienne à plein de niveaux. Ça, c'est sûr. Dans les façons de travailler, dans les emplois, c'est évident qu'il va y avoir des centaines de milliers d'emplois qui vont être menacés avec ça. Ça c'est sûr, ça va avoir des conséquences. Tous les jours, ils nous font des reportages pour nous expliquer que la façon de faire la guerre, elle est en train de changer avec l'intelligence artificielle. Hein, on peut les croire. Ils s'y connaissent mieux que nous dans la matière. Et puis voilà, peut-être que ça changera même notre façon d'apprendre. Peut-être que ça changera notre façon de lire. Mais voyez, pour quelque chose qui risque d'avoir autant de conséquences dans notre vie quotidienne. Est-ce que vous trouvez normal qu'on n'ait pas notre mot à dire? Vous trouvez normal que ça ne soit pas soumis à la population de ce qu'on en fait? Qu'on réfléchisse deux secondes. Qu'est-ce qui nous est utile dans l'intelligence artificielle? Qu'est-ce qui nous est inutile? Qu'est-ce qui peut être nocif aussi? Toutes ces questions-là, vous croyez qu'ils se les posent, eux? Ils se les posent pas, eux. C'est pas leur problème. Eux, leur problème, c'est de développer dans l'IA ce qui peut rapporter du fric. C'est tout. C'est tout. Et c'est là que il faut réaliser qu'on est confronté à une situation où notre combat, c'est pas seulement la répartition des richesses. Notre combat, c'est qui a le pouvoir dans cette société? Qui a le pouvoir de décider, justement, de prendre toutes ces décisions-là. C'est ça notre combat. C'est un combat pour le pouvoir. Alors à l'élection présidentielle, bon, il y en a beaucoup, parce que justement, camarades, j'ose dire que je ne suis pas là pour m'asseoir dans le fauteuil du président de la République et que je n'ai pas du tout envie d'aller à l'Élysée. En général, j'ose, mais qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites là, Madame Arthaud? Qu'est-ce que vous venez nous emmerder, en résumé, hein? Et justement, vous voulez pas le pouvoir, ils me disent. Vous voulez pas le pouvoir. Mais si, le pouvoir, je veux que les travailleurs, ils se saisissent du pouvoir. C'est ça mon programme. C'est que les travailleurs, ils se saisissent du pouvoir. Ils l'ont en partie, le pouvoir de faire fonctionner les choses. Ils n'ont pas le pouvoir de décider. C'est ça le problème. Et donc, c'est effectivement, je veux utiliser, oui, t'as compris, je veux dire, bon, et comme on l'a toujours fait, la campagne présidentielle comme une tribune pour défendre ses idées révolutionnaires, pour défendre l'idée que la bourgeoisie, ça a été une classe qui, est née au sein même de la société féodale, qui s'est battue, qui a fait une révolution politique pour prendre le pouvoir, et qu'elle a développé son système, le système capitaliste, dont on voit qu'aujourd'hui il est en faillite totale pour résoudre les problèmes de base de l'humanité. Il est absolument incapable, et que c'est un gâchis incroyable, parce qu'en réalité tout ça, c'est à notre portée de résoudre le problème de la faim dans le monde, de résoudre le problème du logement, de résoudre un tas de problèmes. On est capable de le faire. Sauf que là, le patronat et la classe capitaliste font obstacle. Voilà. Et donc, dans cette nouvelle société, ben, il y a une nouvelle classe qui n'a fait que se renforcer à l'échelle internationale, c'est la classe ouvrière. Et que cette classe ouvrière, ben oui, elle doit viser la révolution pour prendre le pouvoir et pour faire franchir une nouvelle étape à l'humanité. Voilà. Ça, c'est ça notre job. En effet. Et ça, ben oui, on le dira aussi à l'élection présidentielle. Je veux revenir sur l'histoire de Mélenchon. Parce que, bon ben nous, notre, on l'a dit de plein de façons différentes, nous, notre ennemi, c'est la classe capitaliste. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce que je dirais dans un grand débat, hein, où il y aura peut-être Mélenchon à côté de moi, où il y aura Le Pen de l'autre côté aussi, d'ailleurs. Hein. Parce que là, on a beaucoup parlé de Mélenchon, mais on n'a pas beaucoup parlé de Le Pen. Hein, mais voilà, un gouvernement d'extrême droite, c'est une évidence que ça serait un coup très très dur pour la classe ouvrière, en fait. Et nous, on va pas le sous-estimer, hein, ce coup et ce recul que ça signifierait. C'est aussi là-dessus que, d'ailleurs, surfe Mélenchon, en disant « moi, je vais être le rempart ». Moi, je vais vous éviter ça. Hein? Je vais vous éviter ça. Et bien sûr que ça marche auprès de plein de travailleurs qui sont profondément inquiets de ce que ça signifierait, un gouvernement Bardella. Hein? Et à juste titre, ils sont inquiets. Nous, on partage cette inquiétude. Et on sait que ça ferait des ravages, y compris dans la classe ouvrière. Parce que ça accentuerait toutes les divisions, etc. etc. Hein? Donc nous, il faut qu'on leur réponde. À tous ceux qui regardent Mélenchon sur ce terrain-là. Hein, faut qu'on leur apporte des réponses. Justement, comment on peut le combat? D'abord, nous, on a une voix qui combat le RN. Et je serai aussi une voix qui combattra le RN, bien sûr. Hein, mais une voix qui parle du point de vue des travailleurs, de leurs intérêts. Et justement, parce que là, Mélenchon, il est en train de nous faire une espèce de tour de prestidigitateur. Hein, comme les milieux populaires, immigrés musulmans sont confrontés en effet au racisme, à ces humiliations quotidiennes, et bien finalement ils le voient quand même comme celui qui va les soulager, hein, celui qui va les réconforter, celui qui prend leur parti. Et que Mélenchon ils disent le SMIC à 1 700 € net et que ce soit minable, ben, c'est pas grave. Que Mélenchon il puisse rien changer à la dictature du patronat, ben quelque part, et ils sont prêts à s'en contenter. Parce que s'il y avait Mélenchon d'élu, ça serait déjà une victoire contre l'extrême droite, et ça serait quand même quelque chose qui nous soulagerait. Et ça, il y a plein de gens qui ressentent ça. Et on les comprend. Et on les comprend. Et il faut leur répondre à ça aussi. Et à comment on peut combattre et l'influence, effectivement, de l'extrême droite dans la classe ouvrière, et leur dire y compris que nous, avec notre politique de classe, nous, avec notre politique révolutionnaire pour le renversement du capitalisme, peut-être que nous, on ira arracher des voix ouvrières à Bardella, et plus que Mélenchon, en fait. Plus que Mélenchon, quand il nous explique, quand Mélenchon fait la morale aux travailleurs, en leur disant « vous êtes que des fachos si vous regardez du côté de Bardella bah, ». Ça, c'est une bonne façon de discuter avec eux et de les convaincre, hein, de les traiter de fachos. Hein, bah, peut-être que nous, justement, dans la classe ouvrière, avec notre politique lutte de classe, avec notre politique contre... peut-être qu'on en arrachera. Et bien sûr que c'est aussi notre combat. Donc, ouais, notre premier ennemi, c'est la classe capitaliste et puis tout ces larbins politiques. Et ces larbins politiques, ils vont jouer leur rôle à des moments différents. Le premier larbin, c'est Bardella. Celui qui a quand même plus de chances d'arriver au pouvoir, c'est Bardella. Faut pas l'oublier. Hein? Et puis, le larbin numéro 2, ce sera Mélenchon. Mélenchon, il sera là pour un autre job. Pour le job où s'il y a effectivement des révoltes des travailleurs, pour qu'il les amène sur une impasse. Comme ça s'est toujours fait. Voilà, donc il faut effectivement ben, qu'on sait que dans la classe ouvrière, ça se divise en ce moment, et ça se divise en deux camps assez distincts et séparés. Hein. Il y a ceux qui ont fait de Bardella leur candidat depuis longtemps, qui sont impatients, qui pensent que la victoire elle est à portée de main. Je ne sais pas si on arrivera à discuter avec eux. J'espère qu'on arrivera à discuter avec eux. J'espère qu'on arrivera à en faire réfléchir un certain nombre. Hein. Et puis, il y a les autres. Et j'espère qu'on ne se coupera pas d'eux, qu'on saura dire ce qu'on pense de Mélenchon, que Mélenchon, effectivement, il nous roule dans la farine quand il nous dit qu'il va changer notre sort, alors même qu'il ne dit pas que tout ça, ça ne peut que passer par un affrontement avec le grand capital, avec la bourgeoisie, avec le grand patronat. Ça, il ne le dit pas. Nous, on aura à le dire, sans se couper d'eux, en expliquant bien comment, effectivement, on partage un certain nombre de... Enfin, un tas de choses avec eux. Donc, toutes ces discussions-là, bah oui, là, cette campagne, elle va nous permettre aussi de les avoir, de les mener. Ça va être une bagarre au quotidien. Maintenant, pour terminer, parce que je crois qu'il faut terminer, hein. Ouais. J'ai envie de dire que, voilà, aujourd'hui, on en est là. Où est-ce qu'on en sera dans 3 semaines? La situation, vous savez, elle peut changer très vite. Au milieu de l'élection municipale, il y a eu la guerre en Iran. Au milieu de la dernière élection présidentielle, il y a eu le déclenchement de la guerre en Ukraine. Imaginez, on n'a pas beaucoup discuté du meurtre de la petite Liana, on n'a pas beaucoup discuté, c'est pas revenu trop dans la discussion. Imaginez qu'il y ait une nouvelle affaire de ce genre. Par un immigré. Un migrant, comme ils disent. Imaginez. Toute la situation politique, elle change. Imaginez qu'il y ait une affaire de rank. Vous savez que la jeune garde, elle flingue ou elle, voilà. Imaginez ça. La situation politique, on ne sait pas du tout ce qu'elle sera. On ne sait pas non plus s'il n'y aura pas finalement un coup de sang du côté de la classe ouvrière. Et le camarade qui dit peut-être que ça ne sera pas la présidentielle et que ça sera une révolte des travailleurs. Ben ouais, c'est pas à exclure non plus. Hein, c'est pas, bien sûr, heureusement qu'on l'exclut pas. Hein. Donc vous voyez, la situation politique, on la connaît pas. Mais ce dont on est sûr, c'est qu'elle va dans un sens. Dans le sens, et que tant que les travailleurs ne se lèvent pas, c'est un sens bah, de plus en plus réactionnaire, de plus en plus pro-patronal. Hein. Mais en même temps, tous ces ravages-là, ça fait réfléchir aussi un tas de travailleurs. Et je pense que parler de faillite du capitalisme, parler de la nécessité de son renversement, parler du rôle que la classe ouvrière elle a dans tout ça, pour refonder une société, ben, ce sont des idées qu'on peut faire entendre. Vous savez, ça pèsera pas beaucoup dans l'urne, ça, faut pas se leurrer, ça pèsera pas beaucoup dans l'urne, surtout s'il n'y a pas de réveil, de lutte, hein, des luttes ouvrières, ça pèsera pas beaucoup, mais je peux vous dire que dans les consciences, ça peut compter. Et ça confortera justement tous ceux, les jeunes, qui voient qu'il n'y a pas d'avenir avec cette société capitaliste. Et ça les confortera à aller chercher du côté du courant communiste révolutionnaire. Bah écoutez, bon après-midi à tous. Je crois que la fête, elle continue.